J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatché et Simon Dumas.
Bienvenue à La haine de la poésie, une émission qui cherche à mettre en lumière un imaginaire collectif de la poésie, comme une façon qu'elle a d'être à la fois partout et invisible, ignorée même, mais jamais totalement absente de la vie de quiconque. Deux fois par mois, nous vous proposerons une rencontre avec une personne active dans la société, que ce soit sur le plan culturel, politique ou philosophique. Nous leur demanderons ce qu'est la poésie pour eux et quelle est la place qu'elle prend dans leur vie, et ce, même s'ils n'en lisent pas.
Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Jean-Pierre Masse. Jean-Pierre Masse est cinéaste, réalisateur, monteur et j'en passe. Il est notamment co-réalisateur avec Jean-Claude Labrecque de La nuit de la poésie 70 et 80. Il a en plus réalisé une quinzaine de films documentaires et de fiction. Suivant le principe de l'émission, on demande aux invités de choisir un ou une poète de leur choix pour la seconde partie de l'émission. Le choix de Jean-Pierre s'est arrêté sur Louise Dupré. Simon est allé à la rencontre de Jean-Pierre et Louise. Je suis pour ma part chez moi, dans un petit studio concocté maison. J'ai suivi de loin cette discussion fort pertinente sur la poésie et le cinéma. Je vous laisse entendre le tout.
Deux choses en particulier. D'abord, la poésie avec les mots. Et deuxièmement, la poésie avec les images et les sons. Alors, comme je savais que je vous rencontrais, j'ai fait des recherches pour chercher une définition de la poésie. Et j'en ai pas trouvé. On évite le sujet, on fait des considérations, des explications, des réflexions, mais une vraie définition, je n'en ai pas trouvé aucune. Et je dirais que la poésie, c'est ceci. Puis je vais m'expliquer par la suite. C'est un concentré de signification et d'émotion dans un langage figuré. Là, on parle de la poésie avec les mots, la poésie en littérature. Après, je parlerai poésie avec les images et les sons. Un concentré de signification et d'émotion, ça veut dire que la poésie n'est pas d'abord une description, une narration, ni un message. Je vais vous donner un exemple. Le soleil noir de Nerval. Il n'y a pas de description, il n'y a pas de narration. Il y a une réflexion, mais il n'y a pas de message. C'est de la poésie. Si le langage est assez de côté, ben à ce moment-là, faites un essai, faites un manifeste, mais ce n'est plus de la poésie. Donc, le langage figuré, ça veut dire aussi que ce n'est pas le langage courant, où les mots ont une utilité. Point. Ils servent à identifier les choses, à nommer, mais ils ne servent pas à évoquer, à rêver, à nous transporter plus loin, au-delà de leur définition du dictionnaire. Hein? Ils sont pratiques. Donc, en poésie, chaque mot trouve son sens et son éclat pour signifier au-delà de sa définition dans le dictionnaire. Tout mot est une réduction. Tout mot, en fait, est infirme. Bien, infirme, c'est-à-dire qu'il ne complète pas tout. Mais il faut justement profiter de ses manques pour signifier au-delà de ce qu'il peut jusqu'à un certain point.
Donc, sur le manque des mots, je trouve ça intéressant parce que la réflexion que je me fais, c'est que avec le temps, là, quand je parle de temps, je parle avec les siècles, les millénaires d'usage. En fait, les mots s'usent. Donc, il y a une usure des mots. Et peut-être que là, on rejoint l'idée de manque, en fait. Et donc, les mots perdent en précision avec le temps. Comme j'ai été frappé par un professeur qui racontait qu'être étonné, ça veut dire être frappé par le tonnerre. T'sais, le premier sens du mot étonné, c'était être écœuré, c'est un exemple plus récent. Puis être navré, c'est être traversé de part en part par une épée au départ. Et donc, par usage, le mot s'use, il perd en précision, mais il gagne en nuance, il gagne en épaisseur. Et donc, c'est peut-être là le manque du mot dont tu parles.
Oui. Okay. Il y a le sens du mot. Mais je veux revenir là-dessus, il y a sa musique. Les mots, je te dirais qu'en eux-mêmes, sont poétiques quand on s'y attache. À mon avis, ils ont deux choses. Ils ont ce qu'ils signifient et ce qu'ils évoquent quand on les dit. Et là, il y a une phrase de Yves Bonnefoy que je vais vous citer, que j'aime beaucoup. « Le poème ne prétend qu'à intérioriser le réel. Il recherche les liens qui unissent en moi les choses. » La poésie ce n'est pas la quête de la métaphore inédite. La poésie, ce n'est pas le feel-good non plus. La poésie, dans ce genre littéraire, c'est là où les mots ont le plus de pouvoir pour entrer en contact, sans intermédiaire, immédiatement avec le réel.
Si on récapitule, la définition de la poésie faite par Jean-Pierre serait la suivante. Un concentré d'émotions et de significations faites dans un langage figuré qui n'est pas le langage courant. En poésie, les mots n'ont pas à être exclusivement utiles, voire ils peuvent être inutiles, selon lui, pourvu qu'ils évoquent, qu'ils transportent. On s'est alors demandé, selon lui, quelle était la force de la poésie?
Elle nous étonne, elle nous navre, elle nous frappe directement, bien au-delà de sa signification, et c'est pour ça que la poésie, elle est très forte, parce que c'est un concentré d'émotions et de significations au-delà du message, au-delà de la description.
En début d'émission, Jean-Pierre a voulu définir deux démarches de la poésie. D'une part, la poésie avec les mots, et d'autre part, la poésie avec les images et les sons. Maintenant, qu'en est-il de cette deuxième démarche?
Alors, la poésie avec des images et des sons. Là, je dirais la même chose. Hein? Un concentré d'émotions, de significations, sans les mots, dans un langage figuré. De même que, en images, la photographie, les arts visuels, un spectacle sur scène, la peinture, ce n'est pas un regard habituel, un regard automatique, un regard formaté et inconscient, là, de tous les jours. D'ailleurs, si on était toujours concentré, on ne vivrait pas, on crèverait à bout d'une heure. Alors, les images transposent ce qui nous échappe par habitude, par paresse, par désolation de l'être, si tu veux appeler ça comme tu voudras, nous font regarder, nous font sentir des choses comme la poésie. Et avec les sons, c'est la même chose. La poésie, ne l'oublions pas, n'a pas été écrite, là, a été retenue par cœur pendant des millénaires. Ça fait pas longtemps que les textes sont écrits. Et que là, que l'écrit, à un moment donné, a comme mis sur le banc de punition pour parler un langage de hockey, là, la poésie orale. Et la poésie orale aussi, elle était rimée avant, pas parce que c'était poétique, pour une fonction de mémoire. Elle avait des nombres de pieds et des rimes, de sorte qu'on les retenait beaucoup mieux. Donc, mais ce qui est intéressant avec les images et les sons, c'est que si on compare les images, que ce soit en cinéma, que ce soit en peinture ou en photographie, on voit pour imaginer, alors que quand on lit, on imagine pour voir. C'est deux démarches complètement différentes. C'est deux façons totalement étrangères l'une à l'autre. Bien, pas tant que ça, mais en même temps, c'est deux démarches qui ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas le même type de poésie, mais le résultat final, c'est que c'est toujours de la poésie. Et ce qu'il y a de particulier avec le son, j'entends par là la voix, des bruits, de la musique, hein, c'est que un son nous frappe avant toute intervention intellectuelle. Il n'y a pas de filtrage ni cognitif ni idéologique. Une sirène de pompier, un chant d'oiseau, le bruit du vent dans les feuilles, on ne pense pas, on n'a pas le temps de penser, ça nous arrive directement. Et il y a toute une création poétique, moi je pense, en cinéma, avec le son, avant l'avènement du magnétique, puis les consoles et tout, ben, on enregistrait comme on pouvait avec une qualité qu'on trouvait. Mais la voix de E.T., il y a 17 éléments dans la voix d'E.T., dont trois voix différentes, plus des souffles d'animal. Donc, c'est une œuvre d'art. Hein? Et les montages sonores, moi je suis éberlué, il y a des fois que je vais voir les films deux fois. Parce que les monteurs et les mixeurs sonores aujourd'hui, les concepteurs sonores, ils font vraiment une partition musicale, non pas avec des notes, mais avec des bruits. C'est fabuleux d'écouter ça. Donc, c'est de la poésie, ça aussi.
Tout cela, selon nous, est en effet de la poésie. Mais ultimement, j'étais curieuse de savoir quel était son rapport à la poésie, depuis quand il s'y intéressait.
Je faisais mon cours classique, et puis je connaissais même pas un seul poète québécois. Et puis, à un moment donné, on avait un livre, c'était sur la poésie québécoise. Je pense que ça s'arrêtait à Octave Crémazie. Alors là, je m'étais dit, bien, je vais... Il doit y avoir des Québécois... Ben, à ce moment-là, on ne disait pas Québécois. Il doit y avoir des Canadiens vivants là, qui écrivent encore. Là. On ne parle pas d'eux autres. Là. On va dépasser la mort, là, tu sais. Et là, j'avais découvert le nom d'Alain Grandbois. Et là, Alain Grandbois, je n'ai pas particulièrement aimé ça. Je n'ai pas détesté, mais au moins, je trouvais que c'était bien écrit. Que c'était cultivé. Que c'était une langue châtiée, qui n'était pas moins bon que le latin ou le grec que je traduisais. Et je me suis dit, bien, je suis content qu'on soit du même pays, tous les deux. Mais ça s'est arrêté là. Après ça, là, j'ai 15-16 ans. Après ça, la nuit de la poésie, quand je l'ai fait, j'ai 29 ans, je lisais de la poésie, mais je lisais les marxistes, je lisais Freud, je lisais un paquet de choses, je lisais pas spécifiquement de la poésie. Et là, pour la nuit de la poésie, là, je m'en suis mis à en lire, beaucoup. Et là, j'ai relu d'ailleurs Alain Grandbois, et mon grand chagrin de la nuit 70, c'est Alain Grandbois n'est pas là. J'ai même été le voir, puis il voulait pas se déplacer, il était rendu vieux. Et puis là, j'avais lu « Fermons l'armoire », qui est un grand, grand poème de la littérature universelle. Puis récemment, j'ai relu Alain Grandbois. Donc, à partir de la nuit de la poésie 70, si tu veux, là, j'ai toujours... j'en lisais beaucoup pour la nuit 70, la nuit 80. Mais aussi, j'ai rencontré Louise Dupré dans ma vie en 90. Et depuis, je te dirais qu'il n'y a pas une semaine sans que je ne lise pas de poésie ou que je ne parle pas de poésie. Donc, c'était le développement et le... Je veux dire, je me vois pas sans poésie, là, en un mot, là. Que ce soit en voir, en entendre, on voit des lectures, j'en lis.
En parlant de la nuit de la poésie 70, on s'est demandé quel était le principal objectif de filmer cette soirée en particulier et quel impact cela avait eu à l'époque.
Les nuits de la poésie, c'est pas des films-poèmes, c'est des documentaires sur la poésie. Comme on pourrait faire un documentaire sur n'importe quoi. On était là, Labrec et moi, on a été frappés par ce qui est arrivé, puis qu'on voulait que les gens qui n'avaient pas assisté à la nuit ce soir-là aient la poésie en pleine face et en plein cœur comme on l'a eu. On nous a reproché au début, quand le film est sorti, vous n'avez même pas de commentaires, on ne sait même pas qui c'est ce monde-là, vous pourrez au moins les situer. Si vous n'êtes pas capable de mettre leur date de mort, au moins mettez leur date de naissance. On nous a dit plein de niaiseries, et Jean-Claude et moi, on s'est dit, la poésie nous a rentré dedans. Puis ce qu'on veut, c'est que la poésie leur rentre dedans. Puis s'ils se posent des questions, le monde qui regarde ça, bien, ils sont capables d'y trouver des réponses.
Et quel film ils pourraient considérer comme étant poétique?
Bon. Pas de deux. Ça, c'est un film-poème. C'est pas un documentaire. C'est McLaren qui a filmé une répétition avec deux danseurs. C'est même pas une chorégraphie. C'est deux danseurs sur fond noir en studio à l'ONF, mais il reprend le même mouvement très simple de réchauffement, en fait. Sauf qu'il a copié le même mouvement avec 2, 3, jusqu'à 15 négatifs. Et là, il les superpose avec un décalage. Ça fait comme si on ouvrait un accordéon. Ça commence, il y a d'abord un seul négatif, ça devient 5, 6, 7, 8, 9, 15, puis ça revient à 1. Ça fait un éventail avec une musique de flûte de pan. Moi, je trouve ça, c'est peut-être un des films les plus poétiques que j'ai vus dans ma vie. Il n'y a pas un mot. Mais là, il y a un concentré d'émotions et de significations dans un langage figuré.
Jean-Pierre parle ici du court-métrage « Pas de deux », un film disponible sur le site de l'ONF, réalisé par Norman McLaren en 1968. C'est un film expérimental qui met en scène Margaret Mercier et Vincent Warren, deux étoiles des grands ballets canadiens. Maintenant, Jean-Pierre a eu de très bons mots pour les arts littéraires. On peut l'entendre ici parler du spectacle « Plus haut que les flammes » qui a été produit par les productions Rhizome en collaboration avec Louise Dupré.
Et vous ne faites pas un spectacle de poésie. Vous faites des spectacles poésie. Je vais parler de « Plus haut que les flammes » parce que Louise Dupré va dire un texte après. Quand Nicolas Jobin et Louise Dupré disent le texte, ils jouent la musique, ils sont face à face, il y a des regards qui ont entre eux, c'est un mode de communication magique. Mais en plus, il y a ta mise en place, non seulement des deux intervenants, mais des écrans, l'éclairage qui est là, les images de Jonas. Et j'ai eu le bonheur d'enregistrer avec des musiciens sur place, et c'était pas un spectacle de poésie, c'était un spectacle de poésie. Tu sais, c'était pas du monde debout devant un lutrin, puis qui disent leur texte, puis qui sacent le camp, côté cour, côté jardin, là. C'est pas ça du tout. Et dans ce spectacle de Rhizome, quand Louise Dupré ne redit pas son texte, qu'on entend que la musique, qu'on voit les images et l'éclairage, c'est pas moins poétique que quand elle lit. Hein? On met pas la poésie à off, puis on part les compteurs à zéro quand on commence son texte dans les intervalles. Donc, c'est pour ça que moi, la poésie, c'est beaucoup plus large qu'un texte écrit. Voilà.
Tel que mentionné en début d'émission, Jean-Pierre a choisi Louise Dupré comme poète invitée. Louise Dupré est poète, romancière, dramaturge et professeure à l'Université du Québec à Montréal. Elle a publié une vingtaine de livres, notamment son tout dernier, Théo à jamais, paru chez Héliotrope en janvier dernier. Ses écrits ont été maintes fois récompensés et font l'objet de plusieurs adaptations, notamment en art littéraire avec son texte Plus haut que les flammes, produit par les productions Rhizome, ainsi qu'un documentaire s'inspirant de l'œuvre Plus haut que les flammes, produit par Monique Leblanc. Nous l'entendrons maintenant interpréter trois poèmes de son recueil La main hantée, publié en 2016 aux éditions du Norrois.
Tu ne te rappelles pas quand le poème s'est tourné contre toi. T'as secoué comme un édredon trop habitué au sommeil. T'as forcé à ne plus te mentir. Tu t'es mise à psalmodier des airs invisibles à ton oreille. Des airs scellés dans les replis de l'enfance. Il t'attendait dans la patience du jour prêt à se lever. Il t'attendait. Vieille chair encore attachée à tes os, comme une fois sortie tout droit de la boue. Musique de la rue. Musique de la lumière voltant dans les feuillages. Musique verdoyante de toutes les musiques qui, un instant, a recouvert la plainte de la terre. Tu as vu se découper devant tes yeux l'ombre de la beauté. Toi qui ne reconnaissais que ta dette envers la douleur, tu as soudain reconnu ta dette envers la joie. Il est temps de couper les fils entre tes doigts, d'attirer dans ton jardin les chats errants, temps de cueillir les pissenlits que tu mangeras bientôt par la racine, temps d'accorder grâce à l'effroi. Car tu es encore humaine, tu aimes encore ce que tu es, tu crois à ce que tu ne crois plus, les fantômes bienveillants de minuit et la prière, même souillée comme une robe de viol. La solitude acceptée, la solitude rompue. Tu n'as pas épuisé tes 9 vies, ni les étoiles qui naissent dans tes yeux hagards, ni le futur des verbes simples. Tu trouveras l'audace de te coucher comme une neige nue sur les oripeaux en flammes, pure patience contre force et rage, levée contre, dressée contre, blanche de peur et d'espoir. Tu occuperas le chant de la honte. Telle une promesse alcoolique, jour après jour, la guérilla de vivre. Forêt grouillante, forteresse de l'âme à assiéger. Tapis dans ta chair, tu épies tes moindres faiblesses. Tu ne te fais pas de quartier. Il y a longtemps que tu penses noir, que tu vois noir, que tu parles noir en plein soleil. La nature humaine est incurable, tu le sais depuis longtemps, tu es nombreuse en ta solitude. Ce n'est pas une consolation, tout au plus un constat. Tu n'as pas fini de compter les chaises vides autour de toi et tu les observes du coin de l'œil en jurant que tu ne t'y assoiras pas. C'est debout que tu veux t'habiter, debout parmi les vivants. Tu veux apprendre à dire « nous » comme si tu lançais un appel à témoins.
Nous entendrons maintenant un extrait de l'essai « The Hatred of Poetry » de Ben Lerner, l'essai qui est vraiment l'inspiration de cette émission de radio.
Poetry arises from the desire to get beyond the finite and the historical. Thus, the poet is a tragic figure. The poem is always a record of failure. Our contempt for any particular poem must be perfect, be total, because only a ruthless reading that allows us to measure the gap between the actual and the virtual will enable us to experience, if not a genuine poem, no such thing, a place for the genuine, whatever that might mean.
L'hypothèse de Ben Lerner, c'est que la poésie pose un poème idéal, ce que lui appelle le virtuel. Donc, le champ idéal auquel tous les poètes aspirent, puis auquel un imaginaire collectif de la poésie se réfère. Et chaque poème qu'on écrit est l'échec d'atteindre cette poésie idéale.
Je pense que tout artiste, quand il commence un projet, a une sorte de vision de ce qu'il voudrait faire. C'est la vision idéale. Et puis, c'est jamais ce qu'on réussit à faire dans la réalité. Et évidemment, c'est la même chose pour le poète. On est toujours, quand on écrit, on est face à un échec. C'est jamais assez beau, c'est jamais assez bien, c'est jamais ce qu'on voulait. On avait rêvé, ce dont on avait rêvé, ce qu'on voulait faire. Mais je ne sais pas si pour le lecteur, c'est la même chose. Je ferais la différence entre l'écrivain puis le lecteur. Moi, je sais qu'il y a des poèmes qui m'ont foudroyée. Il y a des œuvres qui me foudroient. Jean-Pierre parlait tout à l'heure de cinéma, de musique, d'art visuel. À un moment donné, on regarde une œuvre visuelle, puis on a l'impression que oui, c'est ça. C'est ça qu'on aurait voulu faire. Et il y a certains poèmes que j'ai entendus, et je me suis dit, j'aurais voulu écrire ce poème-là. Tellement c'est beau. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Pourquoi est-ce que je ne réussis pas à écrire ça? Alors, c'est sûr que je pense que pour qu'on continue à écrire ou à peindre ou à faire du cinéma ou de la mise en scène, il faut toujours ce désir d'aller plus loin et d'aller rejoindre cette espèce de fantasme-là, dont tu parlais de virtuel. Alors, le poème virtuel, l'œuvre virtuelle qu'on ne réussira jamais à atteindre.
Plus tôt dans l'émission, Jean-Pierre parlait de la nuit de la poésie 70. Il disait que les poètes qui y participaient n'étaient pas forcément connus de leurs contemporains. Je me demandais donc s'il fallait avoir une certaine distance avec ce qui se faisait en poésie présentement, par exemple, pour reconnaître le talent d'un ou d'une poète. Il y a d'ailleurs une thèse de Ben Lerner à ce sujet dans « The Hatred of Poetry ». Il dit, tout en humour, que le meilleur poète serait celui qui n'écrit plus. Ainsi, je me demandais ce que Jean-Pierre pensait de cette affirmation.
Oui, bien, d'abord, je vais revenir à ce Lerner que je n'aime pas beaucoup. Quand il dit « le meilleur poète, c'est celui qui n'écrit plus », moi, je dirais ceci. Le grand poète, c'est celui qui n'écrit plus quand il n'a plus rien à dire. Ça, c'est le problème. Tu sais, Rimbaud a fait un seul recueil, c'est tant mieux. Hérédia n'a pas écrit beaucoup. Miron n'a écrit qu'un seul recueil, c'est tant mieux. Il n'y en avait pas de deuxième puis de troisième. Bon, ça ne veut pas dire que c'est un moins grand poète. Non. Tu as des poètes qui, au contraire, vont trouver toute leur vitesse de croisière, toute leur inspiration à la fin de leur vie. Donc, et il y en a qu'on découvre sur le champ, sur le coup. On n'a pas besoin d'attendre 40 ans. Donc ça, c'est un jugement facile. Je te dirais que c'est un espèce de lancement publicitaire pour vendre son livre. Hein? C'est méchant ce que je dis, mais c'est ce que je pense vraiment. Un bon poète, il peut écrire pendant 60 ans, il peut écrire pendant 2 ans. Il s'agit qu'il écrive quand il y a des choses à dire, puis il y a une maturation de son style, de sa pensée et tout. Et il y en a qu'on découvre sur le coup, d'autres pas. Là où il y a une grande différence dans la perception de la poésie, c'est que actuellement il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de textes qui s'appuient sur l'audiovisuel et la performance. Je ne suis pas du tout contre la performance. Hein. Il y a des poètes qui disaient, là, je vais prendre des vieux pour vous montrer que les vieux ne sont pas si pires et que les jeunes ont toutes les raisons du monde de faire des performances. Yves Préfontaine était un extraordinaire performer. Il ne disait que son texte, mais il avait une voix fabuleuse, une façon de dire ses textes. Michel Van Skendel lisait magistralement bien. Geneviève Amiot lisait formidablement. Tu sais, il n'y avait pas de musique derrière, il n'y avait pas d'audiovisuel. Bon. Maintenant, peut-être que ces poètes-là, aujourd'hui, utiliseraient d'autres moyens, mais c'était des performers. Bon. Là, le problème que j'ai par moment, c'est que... Tiens, il y a des poètes qui avaient tellement une très belle voix et qui lisaient tellement bien que jusqu'à un certain point, ça a tué leur poésie. Ils écrivaient pour faire leur vocalise sur scène. Alors là, il y a malheureusement des gens qui font des textes qui, si on ne lit que le texte, ça tient beaucoup plus difficilement à la route que s'il y a tout le reste autour. Ceci étant dit, avec tous les moyens autour, l'important, c'est quel est le niveau de poésie atteint. Et si le niveau de poésie atteint est aussi grand que s'il y avait un super texte seul, moi, j'achète ça. Et aussi, j'ai l'âge que j'ai la culture que j'ai la formation que j'ai. Je suis un vieux dinosaure des collèges classiques où j'ai fait 6 ans de latin puis 4 ans de grec. Je pourrais jamais effacer ça dans ma perception, mais je suis pas du tout contre le type de poésie qu'on fait aujourd'hui. Comme ça m'a pris du temps à accepter le rap, mais je veux dire, il y a des très bons textes là. Bon, mais c'est aussi un genre qui limite, c'est un genre dans un certain type d'émotion, un certain type de revendication. Mais, si vous me prêtez un mot anglais, dans ce range-là, c'est très bon.
À ce propos, on se demandait s'il avait des inspirations, s'il avait des poètes contemporains qu'il appréciait particulièrement.
Moi, il y a des jeunes que je découvre aujourd'hui, je peux te nommer des noms. J'ai beaucoup aimé, par exemple, la constellation des Grands Brûlés. François Guérette. J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a transporté. Et je suis sûr que dans 40 ans, ben à ce moment-là, j'en aurai 119, que je l'apprécierai encore beaucoup, mais pas plus qu'aujourd'hui. Ça, c'est un des jeunes que j'aime. Et quel bonheur quand je découvre un auteur, puis je trouve que dans les jeunes, je dis ceux qui commencent à publier, il y a une espèce de mythologie, tant avec la poésie qu'avec le cinéma. Ah, la période de l'Hexagone. Ah, les films des années 60. T'sais. Jutras, Groux, Brault, Perrault, Giguère, tout ça. C'est des grands poètes. Mais actuellement, la poésie a moins d'impact sur l'ensemble de la population qu'elle avait à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne, puis ça ne veut pas dire qu'il y a de moins grands poètes. Dans 40 ans, on dira, ah, un tel, une telle. Ben, ça sera l'équivalent de Giguère, ça sera l'équivalent de Brault, ça sera l'équivalent de tout ce monde-là. Là. Mais évidemment, là, ils sont vivants, ils sont près de nous, on a une décollée sur eux, puis on distingue moins toute leur amplitude.
Merci d'avoir été des nôtres à la haine de la poésie. Vous avez entendu Jean-Pierre Masse, Louise Dupré, Simon Dumas et Juliette Bernacchi. On se retrouve dans 2 semaines avec 2 nouveaux invités et pour le reste, prenez soin et bonne soirée.
Une production de Rhizome qui remercie CKRL et la Ville de Québec via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.